14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors même si ça reste encore un mouvement assez marginal, il faut bien le dire, le polyamour intéresse de nombreuses personnes qui prennent conscience, eh bien, qu'on peut aimer plusieurs personnes, pas forcément en même temps, mais au fil du temps, tout en étant bien, avec une relation sans doute plus affectueuse. La première à avoir évoqué cette tendance, c'est bien sûr Françoise Saint-Père, à qui il faut rendre hommage, ce que fait d'ailleurs mon invité dans son film fiction-comédie. Isabelle Brouet, donc, elle n'est pas psychothérapeute, mais elle a réalisé ce film sur un sujet qu'elle aborde vraiment, me semble-t-il, avec toutes les questions qui dérangent, comme la jalousie, par exemple. Alors, on va évoquer le polyamour avec ses avantages, ses inconvénients, ses limites, et peut-être ces ouvertures pour une vie plus libre. Et je vous invite bien sûr à venir témoigner et à poser vos questions. Et puis si vous êtes vous-même polyamoureux, bien c'est le moment ou jamais de venir témoigner. Notre numéro 0826 300 300. Isabelle Brouet, bonjour.
Bonjour.
Alors moi j'ai vu votre fiction en 2016, quand c'était encore juste en train de chercher une salle, hein, en quelque sorte. Aujourd'hui c'est chose faite, il se joue
Oui, il est sorti le 4 avril.
C'est ça.
Donc pour l'instant, il passe sur une salle à Paris. Après, les Trois Luxembourg, il est à l'Hackathon, au studio Luxembourg Hackathon, qui est dans le 5e, juste derrière la Sorbonne. Et puis, il va commencer à circuler partout en région.
C'est ça. Et ça marche, hein?
Bah oui, ça marche, ça cartonne à notre petit niveau.
Non,
parce
mais la
que
salle
c'est
pleine,
petite
c'est,
sortie,
c'est...
mais la salle est pleine. Les gens sont contents, ils reviennent avec des amis, ils mettent des super messages sur le Livre d'Or et sur Allociné, et ils le réclament en province.
Il y a déjà un bon bouche à oreille, et ça c'est quand même enfin, je pense que ça doit vous faire plaisir.
Ben oui.
Parce que Isabelle Brouet, il faut bien le dire, hein, vous jouez un peu votre propre rôle dans ce film, enfin... entre guillemets, hein, bien sûr, parce qu'il y a toujours un peu de romance dans tout ça, mais...
C'est une autofiction. Donc je me mets en scène et je joue avec les limites de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et je brouille les pistes. Et c'est un jeu, c'est l'histoire d'une réalisatrice qui décide de réaliser un documentaire sur la polyamorie. Donc... elle utilise tous les gens autour d'elle, ses amis, son amoureux, sa mère et sa sœur. Et on ne sait pas si c'est une vraie mère, une vraie sœur, un vrai amoureux. Et puis elle embauche des comédiens. Donc on finit par plus savoir ce qui est vrai ou pas.
Exactement. Et il y a évidemment beaucoup d'interviews de personnes qui parlent du polyamour dans ce film. Et ce qui ressort le plus, me semble-t-il, alors je l'ai vu, c'est vrai, ça fait presque 2 ans maintenant. C'est là où je trouve que le film est intéressant, c'est la difficulté finalement d'être libre. Parce qu'il y a des sentiments et forcément donc de la possessivité, de la jalousie, des envies qui ne sont pas toujours les mêmes dans la relation, c'est pas si simple. Hein.
Bah, les gens qui choisissent de vivre en polyamorie, ce n'est pas parce que c'est plus simple. Mm-hmm. Le choix n'est pas de quelque chose de plus simple que la vraie vie, enfin, ou la vie habituelle. C'est juste une autre manière de choisir de vivre ses relations en honnêteté. Et sans mensonge, dans le respect, dans la communication, dans le dialogue.
Mais sans refuser ses autres envies, en fait. Parce que sinon, on peut très bien vivre en couple et puis rester fidèle.
Alors, je suis fidèle. Et comme le dit François Saint-Père, fidèle et non exclusive. La fidélité, nous ne mettons pas la fidélité au même endroit. Donc, nous appelons exclusivité ce que les gens appellent souvent exclusivité sexuelle. La fidélité, c'est être fidèle à ses engagements, à ses amours, à ses amitiés, à sa parole. C'est être fiable, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Donc c'est ne pas mentir et respecter l'autre. Donc c'est aller vers mes propres désirs tout en respectant les besoins, les insécurités et les émotions des personnes avec qui je suis en relation.
Et c'est en ça que, justement, cette fiction est assez intéressante parce que vous touchez vraiment du doigt toute la difficulté pour les gens qui ont envie de tenter le polyamour et qui se rendent compte qu'en effet, ça touche des parts de soi qu'on pouvait parfois ignorer.
Oui, ça peut vraiment, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est un chemin de développement personnel. Ça demande du travail sur soi, ça demande de l'écoute, de l'attention à l'autre, ça demande du temps, ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, de l'accueil des émotions, et c'est pas facile.
Je vous propose qu'on écoute un petit extrait, justement, ça s'appelle Lutine.
J'avais beau être prévenu, mais c'est quand même dur de t'imaginer avec un autre. De savoir que tu prends du plaisir avec un autre.
Je comprends.
Attends.
Je suis désolée.
Excuse-moi 2 secondes. Mais ça, c'est une vraie scène?
Bah oui.
Ça. Donc tu lui as vraiment dit que t'avais pris du plaisir à m'embrasser?
Ben oui, enfin le polyamour c'est d'être honnête, non? Enfin la moindre des choses c'est pas se mentir. Je sais pas, enfin tu trompes ta femme toi.
Ouais, enfin il y a des limites à l'honnêteté. C'est une chose d'être d'accord avec le principe, mais c'en est une autre d'entendre plus le détail.
Et oui, c'est bien le principe, mais la réalité parfois est plus difficile. Hein. L'extrait est assez révélateur hein, de ce qu'on peut voir dans ce film.
Ouais, vous avez entendu la voix de Philippe Rebaud. Mmh. Et j'adore cet acteur, voilà, il m'éclate.
Ben oui, vous avez eu raison de le choisir.
Donc, dans le film, il joue le rôle d'un comédien que j'empoche pour jouer le rôle de mon amoureux. Et donc, il se retrouve dans mon lit et on se retrouve tous les deux. Et du coup, je lui fais jouer des scènes de la vraie vie, supposé. Et tout d'un coup, il me dit, mais tu lui as vraiment dit que tu avais pris plaisir à m'embrasser? On ne peut pas dire tout ça. Est-ce que tu l'as demandé avant de lui raconter tous les détails? Et c'est là où moi, je réponds, non, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et c'est toute la question dans la polyamorie, c'est qu'est-ce qu'on a envie de savoir, qu'est-ce que l'un a envie de savoir, qu'est-ce que l'autre a envie de dire, et travailler sur les échanges.
Et ça se discute donc au cas par cas, finalement.
Et surtout en amont.
Avant, bien sûr, de passer
à l'acte.
Évidemment. Ce qui est d'ailleurs la grande différence avec le libertinage ou l'échangisme, c'est qu'en fait, le libertinage et l'échangisme, en général, c'est ensemble dans le même lieu et il y a une sorte de, entre guillemets, de surveillance quand même. Dans le polyamour, si vous allez retrouver votre amant, c'est toute seule et votre compagnon n'a aucune vision et aucun œil, si je puis dire, pour continuer à vous surveiller.
Oui, ça apprend à lâcher prise. Et à faire confiance à l'autre, en fait, et faire confiance à l'autre et à la relation. C'est se dire que, voilà, si la personne revient vers moi, c'est que vraiment, cette personne-là est heureuse avec moi, et il revient parce qu'il en a envie et pas par devoir.
À votre avis, quel est le nombre de personnes qui, actuellement, pratiquent le polyamour en France? On s'était posé la question, je crois, la semaine dernière avec mon invité, et on pense que c'est même pas 5%. Hein.
Les chiffres qu'on a sont, enfin les chiffres que moi j'ai sont ceux des États-Unis, du Canada et de l'Australie, oui. Mais on n'a pas de chiffres en France à ma connaissance. Et là-bas, c'est 5%.
Oui, c'est ça. Donc, on doit être un petit peu en dessous, puisqu'on est généralement un peu en retard. Mais peut-être que ça va se rattraper. En tout cas, on va en parler avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Si vous avez envie de témoigner, que vous soyez pour, que vous soyez contre, que vous ayez tenté, que ça vous tente, n'hésitez pas. On essaiera de vous répondre. Bien qu'on l'a compris, c'est de toute façon du cas par cas, là encore.
Évidemment, mais la vie n'est que du cas par cas.
Il paraît. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et à l'occasion de la sortie en salle de cette fiction qui s'appelle Lutine et qui évoque le polyamour, eh bien, on en parle aujourd'hui sur Sud Radio. Est-ce que ça vous tente? Si ça vous tente, eh bien, venez poser vos questions à Isabelle Brouet qui est avec nous au 0826 300 300. À mon avis, ce n'est pas le cas de Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Ben vous avez trouvé, oui, ça serait juste pas possible pour moi. Que je pense que c'est possible que ça soit l'homme ou la femme, qu'on ait plusieurs amours, qu'on aime plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Mais alors, à mon avis, le polyamour, il faut pas que la personne ait trop de caractère. Comme moi, ça serait juste impossible. Je pense que quand la dame allait voir son petit ami, quand elle reviendra, soit la place est prise, soit je serai parti voir quelqu'un d'autre. Il faut, c'est-à-dire que sur un des
alors,
deux,
si je comprends,
pense...
Philippe, si je comprends bien, ouais. vous êtes tout à fait conscient qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps, mais à ce moment-là, on clive, c'est-à-dire on dit rien. Donc, si votre femme fait l'amour avec un autre homme, elle a intérêt à être très discrète.
C'est ça, voilà. C'est surtout oui. je pense que ça dépend beaucoup du tempérament des personnes. Et là, l'un, que ça soit l'homme ou la femme, je pense qu'il y en a un qui doit, rien dire, laisser faire donc la personne. Et donc il faut qu'il ait, faut pas qu'il ait de caractère, quoi. Parce que moi, je sais que je suis tellement possessif quand j'aime une personne, elle est à moi. Donc si elle va voir une autre personne, c'est vrai que c'est mieux que je sache pas.
Mais si vous le découvriez, vous l'accepteriez?
Si quoi?
Si vous le découvriez plus tard, vous l'accepteriez ou pas?
Mais alors, plus tard, ça veut dire que quand je serai plus avec la personne. Mais alors, beaucoup plus tard, alors, hein? Parce que c'est. Non, autrement, c'est explosif, hein? Non.
Bon, si votre amie écoute, elle est fixée au moins.
Non mais les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, comme elle disait votre invitée, je dis exactement qui je suis Et voilà, je mens pas. Je suis quelqu'un de tellement entier. Voilà, je peux. C'est pas que je vais mentir, c'est que je vais éviter de faire du mal à la personne. Et voilà, c'est vrai que quand on a tendance à aimer les femmes ou aimer les hommes, bon, c'est mieux de se cacher, c'est mieux d'éviter de parler à la personne. Bon, maintenant, si on est avec une personne qui a pas, je sais pas qu'elle est pas de caractère, mais si elle est capable d'assumer le fait que de voir partir sa femme s'habiller et tout pour aller rejoindre un amant et que la personne dise rien, bon, moi je c'est un peu le candolisme, ça. C'est
le candolisme, c'est encore autre chose, hein, puisque on participe.
Chose, je sais, parce que oui, parce que la personne est là en train de regarder sa femme faire l'amour, ça c'est sûr. Mais alors là, c'est pour moi, ça serait encore pire, oui, parce que non, ça serait juste pas possible.
Mais là où, à mon avis, vous faites une confusion, si je peux me permettre, Philippe, c'est que vous mélangez le fait d'avoir beaucoup de caractère et d'être possessif. On peut être avoir un caractère fort sans être forcément possessif, et on peut être possessif et finalement très 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 faible.
Non mais oui, non mais peut-être.
Vous avez les deux, mais visiblement.
Une chose est sûre, c'est que je sais que je pourrais pas. Dans ma vie, j'ai été 21 ans avec ma première femme, 22 ans avec la deuxième. Et
est-ce que vous avez été fidèle, vous?
Non, jamais. Ah non, bah non, voilà. C'est pas que j'ai pas été fidèle. C'est que le problème, c'est que quand on aime les femmes, voilà, depuis l'âge de 5 ans, j'aime les femmes et voilà, c'est
mais alors, la question, Philippe, je sais que c'est pas comme ça que vous avez fonctionné, mais est-ce que ça aurait pas été plus chouette pour vous de pouvoir le dire clairement à votre femme et de mener votre vie avec d'autres femmes et donc, au fond, d'être polyamoureux à condition qu'elle ne le soit pas, j'ai bien compris.
Ben voilà, c'est ça le problème, parce que...
Mais ça marche pas comme ça,
hein. Voilà, c'est ça, c'est que ça marche. Faut que ça soit dans les deux sens.
Non, mais si je peux me permettre d'intervenir, la polyamorie, c'est par définition égalitaire et féministe. Donc, effectivement, on ne s'autorise pas des libertés qu'on n'accorde pas à l'autre.
Ah oui, donc il fallait que vous soyez discret.
Et elle aussi, ouais, manifestement.
Non, mais... C'est peut-être pour certaines personnes, hein, voilà, c'est moi je sais que je suis très très ouvert surtout dans ce domaine-là, mais bon, ben c'est vrai que c'est pas pour moi, quoi, c'est voilà, c'est impossible.
Oui, mais ça, on l'a bien compris que c'est impossible pour vous, mais qu'en même temps, vous comprenez que ça soit possible. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas de jugement de valeur.
Non, j'ai pas de jugement, mais par contre, je suis pas sûr que les couples, soi-disant la polyamoureux, durent très longtemps, vous voyez. Moi, je sais que personnellement, je vous dis, 21 ans avec ma première femme, quand j'ai rencontré ma deuxième femme, j'avais proposé à ma première femme, je dis, ce qui serait bien, c'est qu'on vive ensemble. Voilà, bon, alors comme ma première femme était très processive, puisque c'était un bélier aussi, et donc il était hors de question de ça, donc voilà, donc ben, je me suis séparé, je vis avec ma deuxième femme, voilà, mais bon, c'est comme ça.
Alors moi, ça m'évoque quelque chose, c'est la question de la durée. Est-ce que la réussite, ou le fait d'être en couple longtemps, est un gage de bonheur? Il y a des couples qui durent très très longtemps et qui sont très malheureux ensemble, et puis il y a des couples qui durent peu de temps et puis qui sont très heureux, et voilà, c'est donc l'enjeu, c'est ça. Et pour répondre à votre question, oui, bien sûr, il y a des gens qui sont ensemble depuis très longtemps, par exemple Françoise Saint-Père dont parlait Brigitte tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'ils sont en couple et qui sont polis avec son mari.
Et bah, non, mais je suis content pour mais alors, pour eux, son mari, voilà, comment?
Oui, vous êtes content pour eux, bien sûr, mais...
Voilà, c'est ça.
Cela étant dit, Philippe, je vais donner un petit peu d'eau à votre moulin. Comme on dit, Françoise Saint-Père, elle, est épanouie, c'est sûr. Son mari, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai eu parfois des échos qui me disaient le contraire. Mais ça, encore une fois, ce n'est que des ondes.
Mais ouais. Moi, je l'ai rencontré, il a l'air très heureux.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est, de toute façon, après, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on attend aussi du couple, au fond?
Ah oui, non, mais ça, c'est une grosse question. Comme le bonheur, c'est une question, c'est pareil. C'est la définition du bonheur, faudrait vraiment la définir, hein, et ça, c'est une grande question aussi. Hein.
Bien sûr, donc... Ça, c'est pas. Enfin, je pense que la question du polyamour, c'est peut-être pas la recherche du bonheur. C'est, il me semble, derrière, mais Isabelle Brouet, vous le savez, vous direz si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr. Il me semble que c'est plus une envie d'authenticité et de ne pas se mentir et d'être à contre-courant de l'adultère, en quelque sorte. Hein.
Oui, alors pas forcément, on ne se définit pas à contre-courant d'eux.
Non, bien sûr, mais...
Mais moi, personnellement, moi j'étais aussi en couple pendant très longtemps, dans des couples théoriquement exclusifs. une fois pendant 10 ans, une fois pendant 13 ans. Et j'ai été trompée et j'ai trompé moi-même. Donc j'ai vécu ça. Je l'ai vécu de l'intérieur. Je sais que j'ai vécu le mensonge dans la culpabilité, dans la peur d'être découvert, dans la peur de faire souffrir l'autre. Et en fait, mon compagnon m'avait dit, je te préviens, si tu me trompes, je te quitte. Et je me souviens très bien avoir pensé à ce moment-là, mais j'avais 20 ans. Et je me suis dit, mais c'est stupide, t'es en train de me demander de te mentir. Parce que j'ai 20 ans. Et j'ai envie de vivre avec toi longtemps, et je suis amoureuse de toi, et je me projette avec toi dans notre vie d'adulte, mais jamais je pourrais m'engager à être exclusive pendant 60 ans, ça n'a pas de sens. Donc je me souviens avoir pensé ça. Il est en train de me demander de lui mentir. Et je me suis dit, bon, bah, très bien, si c'est ça qu'il veut, je vais le faire. Et je suis restée 10 ans avec lui. Et au bout d'un moment, le mensonge ne me convenait pas. Et puis dans le couple d'après, j'ai été trompée à mon tour, et je ne le savais pas sur le moment, je l'ai découvert après. Et j'ai été dévastée. Enfin, je l'ai vécu comme quelque chose d'extrêmement douloureux.
Une trahison, oui, comme
c'est une vraie trahison. C'est une vraie. Pour moi, c'est une rupture de la confiance et du contrat de confiance. Et pour moi, quand on est en relation avec quelqu'un, c'est vraiment se livrer dans l'intimité, c'est dire qui on est et recevoir de l'autre le plus intime de la personne. Et vraiment, je l'ai vécu très mal. Donc c'est ça, moi, pour moi, c'est pas en réaction à l'adultère, c'est vraiment pour moi.
Mais quand même,
j'ai besoin d'honnêteté.
Si, quand même, puisque on voit bien que dans vos deux expériences où vous étiez entre guillemets juré fidélité, et puis vous n'avez pas tenu cette promesse-là, comme malheureusement beaucoup de gens. Je pense que peut-être que entre la fidélité absolue et le polyamour, il y a aussi on est ensemble et on se pose pas de questions et on ferme les yeux.
Ah mais la polyamorie, c'est pas tout se dire, c'est pas être transparent, c'est se mettre, c'est la possibilité d'avoir des relations plurielles dans un cadre éthique surtout.
J'ai bien compris, mais je dis que peut-être entre les deux, il y a cette nuance-là où en fait on est en couple et on se pose pas de questions et on n'essaye pas de savoir.
Ah oui.
Alors que dans le polyamour, on éprouve quand même le besoin et c'est en ça que ça se rapproche un petit peu du libertinage. J'essaye d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent qu'on comprenne bien les nuances de chaque chose, parce qu'après tout, moi je suis d'accord avec Philippe, je suis d'accord avec vous Isabelle, hein, chacun fait comme il peut. Hein.
Chacun essaye, et chacune essaye de trouver ce qui lui convient. Et c'est là qu'on avance en fait. Je pense que vous parlez du couple, de ce qu'on appelle le couple libre. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence ?
Je crois qu'il y a énormément de couples aujourd'hui qui savent très bien que la fidélité absolue, c'est tout de même quelque chose de difficile à atteindre. Et donc, ils ne se posent pas de questions, ils ne cherchent pas à savoir, ils ne vont pas regarder dans les portables et puis ils avancent. Hein. Mais on va essayer d'avancer nous aussi sur Sud Radio. Et puis, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Et nous sommes avec Ambre aujourd'hui. Bonjour Ambre.
Bonjour Brigitte, bonjour Isabelle.
Alors vous allez nous parler des femmes rondes.
Oui, tiens. Je vais vous parler de leur sexualité et je vais vous parler des rondes, même des très très rondes. En fait, j'ai envie de les mettre en avant.
Des grosses donc.
Bah oui, disons-le, des obèses, mais le mot n'est pas joli, alors je l'éviterai de le dire.
Bon. On n'a plus le droit de dire les mots tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est terrible.
Non, c'est pas ça, mais en fait, je trouve que le mot est pas joli, juste ça.
Ah bon.
Et le mot rond est tellement joli que j'ai envie de dire plutôt ce mot-là. D'ailleurs, je me suis largement inspirée du livre qui s'appelle Oser l'amour des rondes aux éditions La Musardine, qui a été écrit il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, dans le livre, le mot obèse, grosse, et pas utilisé quasiment. Voilà. Donc je vais faire pareil. Je trouve que ça leur donne plus de douceur et de joli en fait. Voilà. Donc en fait j'avais envie de faire cette sexy news pour faire comprendre à beaucoup de femmes que c'est pas parce qu'elles ont quelques kilos en trop, et c'est souvent moins de 10 kilos qu'elles ont en trop, puisque c'est après une grossesse ou lors de la ménopause, que leur sexualité elle doit s'arrêter, puisque l'homme, le couple souffre beaucoup de cette situation. Et je me suis aperçue aussi que c'était un sujet tabou, parce que finalement on parle pas beaucoup de la sexualité des gens obèses comme vous dites, ou des gens gros, et on trouve très peu d'informations sur ce sujet. Et je me suis dit, bah finalement c'est un sujet tabou comme les vieux, on va dire les mots, comme les personnes handicapées aussi. On n'en parle pas de cette sexualité là donc je vais la mettre en avant aujourd'hui.
On va parler
des femmes très rondes, des femmes obèses si vous voulez, qui font un tour de taille minimum 46-48 et qui assument complètement leur corps et qui apparemment sont de vraies chaudasses, parce que celles qui assument leur corps et qui assument leur sexualité, eh ben elles sont parfois très grosses. Et moi, j'avais envie de parler de ça à celles justement qui ont quelques kilos en trop, parce qu'elles, elles n'assument pas du tout leur corps.
Oui, d'autant que même... quelques kilos en trop, ça ne gêne pas réellement les hommes. Hein. Alors après, obèse, ça dépend des hommes. Mais ce n'est pas quelques kilos en trop qui vont faire qu'un homme va s'éloigner de sa compagne.
Mais on et peut avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre qu'un homme aussi.
Pourquoi pas, aussi. Oui, bien sûr.
Et en fait, les femmes rondes, elles s'imaginent qu'elles ne sont pas désirables, par exemple. Et elles se trompent, parce que beaucoup
cela
d'hommes
dit, Ambre, il y a des femmes très minces qui s'imaginent aussi qu'elles ne sont pas désirables. Ça, c'est un des grands problèmes des femmes. Hein.
C'est aussi important, effectivement, parce qu'elles se voient grosses aussi. Mais ça s'appelle la dysmorphophobie. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'hommes préfèrent les rondes. Il y a des femmes très célèbres qui font un tour de taille de 44, 46, comme Monica Bellucci, comme Marilyn Monroe aussi, Kim Kardashian aussi, qui est un peu plus, je dirais, dans l'air du temps. Et les hommes aiment bien regarder ces femmes-là et ont envie de ces femmes-là. Donc... J'avais envie de raconter un petit peu comment ces femmes-là font
enfin,
l'amour.
Marilyn Monroe n'était pas obèse quand même, Ambre.
Kim Kardashian non plus.
Elle a juste des implants à 5 000 dollars au niveau des fesses. Non, mais elles font quand même un tour de taille de 44-46. Et je dirais que les femmes qui se plaignent de leur tour de taille aujourd'hui, bah, elles font juste un 40-42, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant ces femmes, justement, qui assument leur volupté. Et je pense... que pour être désiré, il faut se trouver désirable. Et pour se trouver désirable, il faut aimer son corps. Et un petit pas pour l'aimer, c'est de commencer à s'accepter. Bon, pour s'accepter, j'encourage les femmes à chouchouter leur corps. Et je vais leur parler de la bonne vieille méthode Coué. Elle est un peu désuète, on en parle un petit peu en ricanant de cette méthode Coué, mais elle marche réellement. C'est quoi cette bonne vieille méthode Coué? C'est se regarder le matin dans le miroir et se dire qu'on est belle, par exemple. Ou alors mettre des post-it partout dans la maison et notamment dans sa salle de bain, dire « j'aime mon corps, je suis belle ». Et ça, cette méthode Coué, elle marche réellement. On va arrêter aussi de mettre des photos de mannequins filiformes dans son salon ou dans sa chambre et puis peut-être privilégier des femmes.
En revanche, offrir une séance photo avec un très bon photographe, ça peut être très valorisant et ça marchera bien aussi.
Ouais, ben ça c'est un petit truc justement pour effacer un gros complexe. Et j'allais en parler tout à l'heure, pour les plus extraverties ou celles qui veulent commencer à apprécier leur corps, effectivement se faire prendre en photo dans de la jolie lingerie, par exemple, ou pourquoi pas, mais ça ce sera pour celles qui osent un peu plus se faire filmer lors de leurs ébats, pour pouvoir après se regarder et se voir et s'apercevoir que l'image qui est là est plus flatteuse que celle qu'elles ont d'elles-mêmes, en fait, réellement. Et ça, c'est une méthode qui marche aussi. Parce que j'ai vu plusieurs témoignages de femmes qui l'ont fait et qui ont dit, bah, moi, quand je me suis vue en photo avec la lingerie que je m'étais achetée à ma taille, taille 46-48, ou alors quand je me suis vue en train de faire l'amour avec mon conjoint, et ben, je me suis trouvée sublime. Et là, ça débloque tout. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes très grosses, très rondes, obèses, elles font l'amour en pleine lumière. Alors, je ne vais pas demander à ces femmes-là de mettre la pleine lumière pour oser faire quelque chose, mais elles pourraient privilégier aussi les lumières tamisées, les lumières douces, ou entrouvrir les volets, ou mettre des bougies, pour faire quelque chose de sensuel, de joli dans la pièce, quand elles vont commencer à faire l'amour. Et puis, celles qui n'aiment pas leur corps aussi, en général, elles privilégient le t-shirt. Mais il ne faut pas privilégier le t-shirt, il faut aller s'acheter de la belle lingerie. Il y a des sites qui existent en ligne. Il y a par exemple Marianne James, qui est très connue, qui a fait un site qui s'appelle boutique.sanscomplexe-lingerie.com et qui présente de la lingerie qui est érotique et qui est affriolante à souhait et pour les grandes tailles et qui est juste somptueuse. Donc s'acheter de la lingerie, vous pouvez aller sur le site d'Adam et Ève aussi, ils font des déguisements en grande taille qui est absolument magnifique. Donc il faut commencer à prendre soin de soi parce que...
Oui, en fait, vous leur dites de ne pas s'habiller comme des sacs, quoi.
Exactement.
Oui, vous avez raison.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on dit aux hommes qui sont un peu gros, alors, Ambre?
Eh ben, de faire pareil.
De mettre de la lingerie.
Non, mais de commencer à prendre soin de soi aussi. La méthode Coué, elle marche aussi pour les hommes. Mmh. Il faut aussi commencer à prendre soin de soi et puis aller dans des boutiques où on peut s'acheter des vêtements qui nous mettent en valeur réellement, parce que ça existe. Voilà. Y a des conseillers en images qui existent d'ailleurs, qui font ça très bien.
Et puis, c'est très relatif, hein, cette idée de grosseur, en fait. Hein.
Mmh. Exactement.
Ça dépend déjà de la morphologie. Il y a des gens à qui ça va très très bien. Qui sont naturellement ronds, hein, pour reprendre votre expression, Ambre. Et puis après, ça dépend aussi de son tempérament.
Et alors, je vais vous parler
de toute façon, les hommes qui invitent à déjeuner ou à dîner une femme qui grignote, ils n'aiment pas ça du tout. Hein. Et c'est tout généralement assez mauvais signe sur leur appétit sexuel.
Oui, c'est vrai. La femme ronde est beaucoup plus gourmande et généreuse, et elle va oser étaler la chantilly sur le corps de l'homme, effectivement. Je voulais vous parler, juste pour finir, des positions. La seule position que la femme ronde et obèse, comme vous le dites, peut faire, il y en a une seule que les autres ne peuvent pas faire, c'est laquelle?
Ah, ça, je ne sais pas du tout. J'ai jamais été obèse encore, Ambre. Pourtant, j'ai essayé plein de choses. Hein. Et vous avez une idée, Isabelle Brouet? Nora, une idée?
Non, du tout. On vous écoute, Ambre.
La position qui va faire frémir tous les hommes, c'est quoi? C'est la branlette espagnole. Voilà, la cravate de notaire, si vous préférez. Et avoir une... On peut pas... Moi, je suis désolée, je fais un petit 90B. Avec ma poitrine, la branlette espagnole, ça ne marche pas très bien. Par contre... Avec une forte poitrine, ça marche très bien. Et ça, les hommes...
Oui, mais attention, c'est pas parce qu'elles sont, grosses qu'elles ont forcément beaucoup de seins, hein, Ambre.
Oh, souvent quand même. Souvent.
C'est vrai, mais souvent. Et c'est pas...
Bon, enfin, on va leur laisser... Allez,
admettons, on va leur laisser ce mérite-là.
Alors, est-ce que vous savez... D'ailleurs, je vais finir ma chronique, ma sexy news de la semaine dernière. Est-ce que je me suis attachée à la branlette espagnole? Je me suis demandé, mais pourquoi on appelle ça une branlette espagnole? Est-ce que vous savez?
Oui, je sais.
Allez, dites-moi.
Eh bien, c'est parce que les bonnes espagnoles faisaient ça aux notables qui habitaient dans les grands, aux étages inférieurs. Et donc, ils montaient au dernier étage et ils se faisaient faire une branlette espagnole.
C'est exactement ça. Ben, c'était voilà. les bonnes espagnoles du XXe siècle à Paris.
Oui, enfin, début du XXe. Ouais, ouais.
Et je me suis intéressée à ce mot-là et je me suis dit, bah tiens, je vais voir comment en espagnol ils appellent la branlette, la
branlette cravate espagnole. De notaire, en fait. Hein.
Ouais. Eh ben, figurez-vous.
Parce que pour précisons quand même, parce que nous on est entre gens qui savons, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une fellation entre les seins. Hein. Enfin, donc pas une fellation, mais une
branlette.
Un massage des seins sur le pénis. Voilà. Eh bien, figurez-vous que les Espagnols, la fellation, il y a une connotation très française dans leur façon de dire la fellation. Ils disent faire un français. Et excusez pour mon accent espagnol, parce que je suis plus germaniste qu'espagnole, mais ça se dit hacer un francés, faire une fellation.
Ah bah dites donc, notre réputation est faite.
Et figurez-vous que faire la branlette espagnole en espagnol, ça se dit hacer un cubano. Faire un cubain.
Ah ben, voilà. Vous avez donc des bonnes cubaines.
C'était les bonnes cubaines,
finalement,
exactement.
Finalement, la sexualité mène à tout. Hein.
Voilà, exactement.
On pourra savoir les mœurs de tous les pays grâce à l'expression de la branlette espagnole, voilà.
Bon, et pour conclure cette
Un peu de culture, merci Ambre.
Pour conclure cette chronique, j'avais envie de dire aux femmes qu'elles arrêtent de calculer leur IMC. Indice de masse corporelle, qu'elles arrêtent d'aller sur la balance toutes les semaines, elles feraient mieux de calculer leur IMQ, leur indice de merveilleuse du cul. Voilà.
Merci Ambre, merci pour elle. On retrouve Lola maintenant qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Lola.
Bonjour.
Alors, vous avez une vision du polyamour qui ne serait que sexuelle, hein, c'est ça? C'est-à-dire que si c'est que sexuel, d'accord, mais s'il y a des sentiments, c'est pas possible.
Oui, pas trop d'enfants, ça. J'ai plus dit que je pourrais plus accepter que mon homme me dise « Écoute, voilà, j'ai envie de cette fille », plutôt qu'il me dise « Écoute, j'ai envie de me mettre en couple avec cette fille et de rester en couple avec toi ». Pour moi, ce serait juste impossible.
Oui, donc là, on est quand même loin du polyamour, hein, parce qu'il y a des sentiments, enfin, il me semble. Hein.
Oui, en fait, donc le débat, c'était sur des personnes qui sont en couple et que c'est affiché, c'est libre, c'est ça?
Bah, la polyamorie, en fait, c'est beaucoup plus large, si je peux me permettre, que le couple. En fait, on va bien au-delà. Ça ne veut rien dire d'autre, en réalité, que la possibilité de vivre des relations plurielles dans un cadre consensuel et éthique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On dit juste, je suis non-exclusif ou je suis non-exclusive, et je m'engage à prendre soin des personnes avec qui, des relations et des personnes avec qui je suis en relation.
C'est-à-dire qu'on peut être célibataire, c'est-à-dire vivre seul et être polyamoureux.
On peut complètement être célibataire, complètement sans aucune relation et se dire poly. On peut être ce qu'on appelle solo-poly, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit seul et qui assume de vivre seul et qui a plusieurs relations. On peut être en couple et que chacun des personnes ait d'autres relations. On peut vivre à trois et qu'il y ait deux personnes en relation et la troisième pas. On peut vivre à trois et que les trois personnes soient en relation. On peut vivre à cinq. On peut être en anarchie relationnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les relations. Il y a plein de formes possibles une fois qu'on sort du cadre monogame classique. Tout reste à inventer et le seul enjeu, c'est que ça convienne à chacune des personnes concernées. Il n'y a rien d'autre qui compte, en fait.
En fait, c'est presque une philosophie.
C'est complètement une philosophie de vie, oui. Pour moi, en tout cas.
Lola, d'accord. Je vous en prie, allez-y.
D'accord. Bah, moi, personnellement, je ne pourrais pas être comme ça. Après, en étant célibataire, pourquoi pas avoir plusieurs relations si on en a envie. Mais moi, du moment que je suis en couple, c'est à deux pour moi.
Oui, du moment que vous êtes amoureuse de quelqu'un, vous avez envie donc de créer un couple, c'est ça?
C'est ça. Voilà. Moi, quand je suis amoureuse, je peux pas aller voir ailleurs, ça aussi.
Et vous supporteriez pas que l'autre aille voir ailleurs non plus, j'imagine?
Ben non. Après, ça m'est jamais arrivé, donc je pourrais pas dire si je l'accepterais ou pas, mais là, je dirais non.
Oui, ce qui correspond à la majorité des gens, hein, Lola. C'est d'ailleurs le problème de ceux qui veulent tenter le polyamour. Il faut franchir ce cap de la jalousie, hein, et vous le montrez très bien dans votre fiction, Lutine.
Oui, c'est franchir le cap de la jalousie, pas nécessairement en fait. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent de vivre en étant poly, tout en continuant à éprouver des sentiments et des émotions de jalousie. C'est juste qu'on le vit différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire je suis jaloux, donc tu arrêtes tout de suite ce que tu es en train de faire. On dit je suis jaloux, c'est compliqué pour moi en ce moment. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut trouver une autre manière de vivre les choses? Est-ce qu'on pourrait en discuter tous les deux et faire en sorte que ça soit plus facile à vivre pour moi la prochaine fois? Donc il ne s'agit pas d'éradiquer la jalousie parce qu'on est des humains. On reste des personnes avec des émotions, mais on l'envisage différemment.
Je peux comprendre tout à fait. Après, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça et que ça leur va très bien. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein.
Mais en tout cas, c'est pas, ça serait totalement envisageable, inenvisageable pour vous.
Que mon compagnon, il me dise qu'il a des relations extra-conjugales, entre guillemets, je pense pas que je pourrais l'accepter.
Et oui, bah, c'est comme beaucoup de gens. Hein, Lola, on a donné tout à l'heure des chiffres. Hein, certainement, même pas 5% des gens sont polyamoureux. Hein, donc, on voit bien que c'est une minorité. On va y revenir dans quelques instants sur Sud Radio. Si vous êtes libertin et que vous avez envie justement de témoigner pour nous montrer quelles sont les différences, 0826-300-300, n'hésitez pas.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous parlons du polyamour aujourd'hui avec vous, Isabelle Brouet. Vous êtes réalisatrice, scénariste de cette fiction comédie. Vous y tenez, hein, ce n'est pas un documentaire, contrairement à ce qu'on disait tout au début de l'émission. C'est une fiction comédie, c'est-à-dire
c'est une comédie, tout simplement, une comédie.
Voilà, vous avez eu envie de jouer le rôle d'une femme qui essaye de faire un documentaire sur le polyamour. Mais c'est donc vraiment une comédie, et c'est vrai que c'est assez drôle, hein, moi qui l'ai vu il y a déjà quelques temps. Ça s'appelle Lutine, c'est au cinéma en ce moment dans une salle à Paris.
Tous les vendredis soirs à 20h30 à la Catone, et à chaque fois en fait on fait un débat, une discussion avec la salle, une rencontre avec la salle après. Et donc ça c'est passionnant parce que c'est une ouverture au dialogue vraiment aussi, quoi.
Avec des gens donc qui viennent voir par curiosité, la plupart, j'imagine, c'est pas forcément des polyamoureux qui viennent voir le film.
Ah, pas du tout. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont lu la presse, qui ont lu les critiques, qui ont vu que le film sortait, qui se sont dit tiens, c'est rigolo. Puis en plus, il y a Philippe Rebaud qui vient d'être qui était beaucoup à l'affiche là récemment, qui était dans Vent du Nord, donc on a vu beaucoup, donc les gens le reconnaissent et les gens commencent à vraiment le suivre. Donc les gens viennent voir une comédie avec Philippe Rebaud sur, qui parle d'amour et de relations et de couple et ils découvrent pour alors la plupart ce que c'est que la polyamorie.
Qu'est-ce que vous disent les gens après la projection en règle générale? Ils sont étonnés, curieux? Quelles sont les réactions du public?
Oui, de manière générale, comme le film n'est pas militant, ça les agresse pas, ça pose plus de questions que ça ne donne de réponses.
Mais d'ailleurs, vous posez plein de questions dans le film. Hein. À aucun moment vous savez exactement où vous allez. Le rôle que vous jouez, en tout cas, hein. On voit toutes les difficultés à assumer quelque part ce désir de vivre le polyamour.
En aucun cas, je ne dis que c'est quelque chose de simple. Ça l'est pas. Donc effectivement, les gens sont quand ils découvrent le concept, ils sont surpris. Donc le débat continue dans la salle, ils posent des questions. Mais vous êtes pas jalouse? Et comment vous faites ça? Et comment on gère l'agenda? Et comment ça se passe? Et comment ça se passe avec les enfants? Et est-ce que c'est possible de vivre à plusieurs? Et du coup, en fait, on fait des mini cafés polis dans la salle. C'est assez chouette.
Bien sûr, oui. Et justement, la question des enfants, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, Isabelle Brouet?
Que chaque cas est différent. Que globalement, pour moi, quand les parents sont heureux, les enfants le sont aussi. Donc l'idée, c'est d'assumer qui on est. Je ne pense pas que des enfants soient heureux, enfin en tout cas, ce n'est pas ma conception, que des enfants soient heureux dans un couple qui triche, qui ment, qui se parle mal, qui ne se respecte pas, voire qui s'insulte.
De toute façon, les enfants, on n'a pas besoin de leur raconter ce que font papa ou maman s'ils sortent.
Hein. Mais les enfants, ça ne les regarde pas. Enfin, mon point de vue, c'est qu'à partir du moment où ça ne change rien à leur vie de tous les jours, ce que leurs parents ou leurs beaux-parents font de leur vie amoureuse et sexuelle ne les regarde pas, tout simplement. Donc moi, mes enfants savent, effectivement, puisque je parle de polyamorie à la maison et qu'ils ont vu le film, ils savent que je prône ce mode de vie-là. Mais à nouveau, être poly ne signifie pas avoir plusieurs relations, juste la possibilité d'eux, si un jour on en a envie, de pouvoir en parler.
Et de voir ce qu'on dit à l'autre en fonction de ce qui a été communiqué ensemble d'un commun accord. Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invitée, Madame Brouet.
Bonjour.
Voilà, j'ai un peu réfléchi au sujet du jour et je pense moi qu'il est j'ai des questions en fait. J'ai pas des affirmations de façon péremptoire parce que ça fait 12 ans que je suis avec la même personne. Donc c'est des questions, on m'a dit que le polyamour arrivait un petit peu là et que ça commençait à se répandre. Et j'ai des questions, c'est-à-dire notamment au niveau du processus d'investissement. C'est-à-dire que pour ma part, enfin moi, d'après ce que je ressens, c'est quand on se met en relation avec quelqu'un, il y a quand même un processus d'investissement de la relation, une volonté que ça marche, une envie de rencontrer l'autre, d'évoluer avec la personne. Et est-ce que le fait d'être comme ça en polyamour avec plusieurs personnes, est-ce que ça amoindrit pas un peu le processus d'investissement de la relation en fait?
C'est une belle question, oui.
À nouveau, je n'ai pas la réponse et je vais certainement pas avoir la réponse pour vous. Je peux juste vous raconter ce que moi j'ai vécu. Moi, je suis en relation poly avec un homme que j'aime beaucoup, avec qui je suis vraiment, plus que beaucoup, depuis 6 ans. Et j'étais poly quand on s'est rencontrés et ça n'a rien empêché à la relation. C'est juste que je ne projetais pas. Donc, c'est ma manière à moi de faire, c'est d'être au quotidien. Au jour le jour et de m'engager sur un comportement et pas de m'engager sur des émotions ou des sentiments sur le futur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre avec lui le plus longtemps possible parce que pour l'instant, je le vis bien et je suis heureuse. Mais je ne peux pas m'engager à rester amoureuse de lui pendant 50 ans. J'en sais rien. Je ne peux pas le savoir.
Vous vous engagez sur un comportement, c'est-à-dire si c'est...
Je m'engage sur une honnêteté, je m'engage à parler de mes émotions, je m'engage à le respecter, je m'engage à prendre soin de la relation. Je m'engage à dire les choses quand je les ressens.
D'accord. C'est vrai que ce qui me vient à l'idée, c'est vrai que par rapport au polyamour, c'est vrai qu'effectivement, il y a un processus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une honnêteté. Vaut-il mieux pas être dans le polyamour et être avec quelqu'un qui nous corresponde, c'est-à-dire qui est dans la même mouvance que nous, plutôt qu'à un moment donné de s'engager et y croire sur le moment. Hein. Je suis pas en train de dénigrer l'adultère, mais on y croit sur le moment, on a vraiment envie d'y croire et on sait pas quoi demain est fait. Mais finalement, mettre un coup de canif dans le contrat et peut-être subir justement une trahison, si on peut appeler ça comme ça, quelques années après, parce que finalement, l'autre ne répond pas à tous nos besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le polyamour me semble peut-être plus honnête, finalement. Avec soi-même comme avec l'autre.
De toute façon, l'autre ne répond jamais à tous nos besoins, Jérôme.
C'est là où je voulais en venir aussi, si je peux, c'est aussi la frustration. C'est notamment quand, justement, par rapport à ce que vous dites, Brigitte, c'est super intéressant, c'est que l'autre ne répond jamais à tous nos besoins. C'est-à-dire que forcément, quand on se met en relation avec quelqu'un, il y a un travail sur soi à faire aussi, une maturité à avoir dans la relation en disant que l'autre n'est pas là pour répondre à tous nos besoins, qu'il nous donnera le meilleur de nous-mêmes s'il le désire, mais qu'on doit aussi travailler sur nous pour accepter les frustrations. Est-ce que le polyamour, c'est pas une façon aussi de ne pas subir de frustration?
Ah, c'est certain, ça vous avez tout à fait raison, Jérôme. C'est une manière qui peut fonctionner pour certains, mais qui fonctionnera pas pour d'autres, attention, hein. Mais c'est aussi une manière de se dire, bon, de toute façon, si j'ai envie de trouver autre chose ailleurs, j'en ai la possibilité. Mais Jérôme, vous savez, c'est un peu comme l'amitié. On peut être très très ami avec quelqu'un, et puis avec un autre ami, on aura autre chose. Et je pense que le polyamour, c'est une manière de gérer l'amour un peu sur le mode de l'amitié. Est-ce que, enfin,
c'est intéressant.
Avec évidemment la sexualité en plus, mais c'est toute la question de la sexualité, parce que évidemment, on est rarement jaloux des amis de l'autre, bien qu'il y ait des gens qui en soient jaloux, hein, ça existe, mais dans l'ensemble. On accepte assez bien que nos amis aient d'autres amis, même si parfois ça nous énerve un petit peu quand ils vont parler d'un autre ami avec beaucoup d'admiration et éventuellement de quelque chose qu'ils ont fait avec et qu'on aurait bien aimé faire avec. Hein. Donc on voit bien que même l'amitié peut provoquer de la jalousie. Dans l'amour, comme il y a entre guillemets la sexualité, et c'est ça qui pose tout problème, parce que la sexualité, qu'on le veuille ou non, il y a une pénétration l'un dans l'autre, et donc forcément. Un symbole de possession. Non mais encore une fois, je suis sur le plan symbolique, attention, hein, j'ai suffisamment avancé sur la sexualité pour comprendre que la possession, c'est pas forcément quelque chose qui est systématique, mais dans le symbole, dans l'image, et d'ailleurs, moi je me souviens, j'avais eu un débat très très puissant avec Patrick Schulman, le réalisateur de La Tendresse Bordel, qui malheureusement nous a quittés, et qui disait bien, de toute façon, c'est normal que l'homme ne supporte pas que la femme le trompe, parce que il y a un pénis qui est rentré dans son vagin à lui, en quelque sorte, disait-il. Vous voyez, et c'est vrai que souvent l'homme va plus facilement accepter qu'une femme ait un peu de sentiments, parle un peu avec un autre homme. L'homme a beaucoup de mal à accepter la pénétration d'un autre homme dans le vagin de sa compagne.
Oui, mais c'est aussi une question de culture, de ce qu'on nous raconte, de tout ce qu'on nous dit dans les livres, dans la littérature, dans les films. On croit ça, et donc en fait les gens pensent que c'est ça.
On croit, c'est quelque chose qui est réel. C'est quand même un pénis qui rentre dans un vagin, c'est pas une croyance. Hein.
Bien sûr, mais on a cette croyance que si on est amoureux, alors on est jaloux, que si on n'est pas jaloux, alors c'est qu'on n'est pas amoureux.
Enfin, mais vous parliez bien tout à l'heure du frère qui est jaloux de sa sœur, etc. Donc la jalousie, et même les animaux, on le voit, c'est un sentiment qui est relativement universel.
Bien sûr.
Donc c'est assez, ça demande, moi je pense que ça demande une élévation, alors on va pas dire spirituelle, mais une élévation de conscience, en effet, de dépasser la possessivité, en quelque sorte.
C'est vrai que j'ai cette notion de possession, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était ma femme, et du coup, j'essaye justement de ces dernières années, et ça la rend attractive, pardon,
oui,
à
oui,
mes yeux,
oui.
Parce que du coup, comme je travaille humblement pas sur ce chemin-là, du coup, savoir qu'elle peut, elle est avec moi, elle a fait le choix en conscience d'être avec moi, et du coup, ça met dans la relation une forme de reconnaissance. Et comme elle ne m'appartient pas, et que c'est pas parce qu'on est marié qu'on a deux enfants qu'elle peut pas partir ailleurs, du coup, ça la rend attractive à mes yeux, et ça me redonne envie de donner le meilleur de moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour la garder, de continuer à la séduire et qu'elle ait envie de rester avec vous. Mais c'est bien, c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer, Jérôme.
Oui, mais c'est vrai que c'est au début, on a tendance à dire, bon, ça y est, on est mariés, super. C'est vrai qu'on cette tendance-là, je pense, tous.
Si vous mettez vos pantoufles, vous perdez la partie. Jérôme, vous restez avec nous. On va revenir sur justement cette notion de possession, parce que je crois qu'Isabelle Brouet voulait ajouter autre chose. On y revient tout de suite après les infos.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et nous continuons à évoquer le polyamour avec Isabelle Brouet à l'occasion de la sortie de cette fiction Lutine. Lutine que vous pouvez voir donc le vendredi à Paris dans une salle. Et puis on commence à le réclamer en province. Et donc le film va faire. Et je vous souhaite en tout cas le même succès que le film de Jérôme, hein, Ceci est mon corps, qu'on avait beaucoup soutenu d'ailleurs dès le début dans cette émission.
Bah oui, Jérôme, il est resté plus de 3 ans au cinéma La Clé qui est menacé cette fermeture là. Et puis il y a aussi il y a quelqu'un avant moi qui est passé à la Catone qui était Antoine Desrosières, dont le film qui s'appelait Aramis est resté 1 an à raison d'une séance par semaine. Et là Antoine est à un certain regard à Cannes avec son film d'après. Donc voilà, on peut espérer qu'effectivement ça, il me porte chance l'un et l'autre sur cette idée d'accompagner le film de débat systématiquement. Et c'est ce que je suis prête à faire aussi en région. Quand les gens me le demandent, je viens avec mon film.
Parce qu'on se rend bien compte, Jérôme, restez avec nous, hein, je vous redonne la parole dans un instant. On se rend bien compte, Isabelle Brouet, que vous êtes à la fois la scénariste, la réalisatrice, l'actrice de ce film, Lutine, et que c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment votre bébé. Hein, y a quelque chose de c'est presque politique, en quelque sorte. Hein,
oui, ce bah, mon premier long métrage, quand moi, j'ai fait La Fémis, c'est mon premier long métrage. Ça s'appelait Tout le plaisir est pour moi, et ça parlait de clitoris, de masturbation et de plaisir féminin à un moment où on n'en parlait pas du tout et où c'était complètement tabou. Et je parlais du clitoris de l'intérieur, je parlais de ce qu'il y a à l'intérieur du corps de la femme. On n'en avait quasiment pas du tout parlé encore en France, c'était complètement révolutionnaire et c'était il y a quasiment 15 ans. Donc effectivement, j'ai ce côté d'avoir envie de détabouiser la parole. Et dans mon film précédent, il y avait un personnage qui montait sur la table et qui disait « Mais enfin, c'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas en parler ? Enfin, tout le monde se masturbe, vous ne masturbez pas, vous ?» Peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens, beaucoup. Et pourquoi on ne peut pas en parler ? Et pourquoi la masturbation féminine, c'est un tabou ? Et pourquoi les règles, c'est un tabou ? Et pourquoi tout ce qui touche à la femme, c'est un tabou ? Donc effectivement, j'ai un côté, moi, ce qui n'est pas le cas du film, mais j'ai un côté, moi, d'avoir envie de changer la société, quoi. Et de faire en sorte qu'on en parle, quoi. Et de lâcher l'hypocrisie et de faire en sorte de pouvoir dire les choses.
Voilà, et justement, dans ce film sur le polyamour, vous évoquez hein, cette difficulté à rester fidèle toute sa vie à quelqu'un, hein, au fond, et que le polyamour, ça peut être une solution plus, on va dire, plus authentique, peut-être. Voilà. Jérôme, vous êtes
alors,
toujours...
Pardon, à nouveau, je suis très, très, très fidèle. Je suis non exclusive, mais je suis fidèle à mes amis depuis toujours, à mes amants,
oui,
à mes amoureux.
J'entends bien Isabelle, mais c'est quand même le terme...
C'est pour ça que je j'insiste, pardon, mais j'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait qu'il faut qu'on arrête de dire le mot pédophile, parce que pédophile, ça veut dire qu'il aime les enfants. Or, la racine ne correspond pas à ça, et effectivement... la fidélité, ça vient, c'est fidèce, fidéi, c'est la confiance, c'est
ça
être
vient de foi,
digne de confiance.
Hein, ça vient du mot
fidèce,
foi.
Fidèi, qui veut dire foi et la confiance, bien sûr, absolument.
Jérôme, vous êtes toujours là ?
Oui, tout à fait, je vous écoutais, je trouve ça c'est super intéressant, donc j'écoute.
Eh bien, à vous de réagir alors, Jérôme.
Mais non, parce que moi, ce que je retiens dans tout ce qui est, c'est que, effectivement, je pense que le piège dans tout ça, c'est, il y a quelques années, j'ai un ami qui m'a dit, ça fait quelques années que t'es avec ta femme, et c'est pourquoi tu passerais pas à l'échangisme, parce que justement, ça permet de maintenir la relation, ça permet d'aller pimenter un peu sa relation et tout ça. Et dans tout ce qui est proposé aujourd'hui et tout ce qui existe, je pense que avant tout, il faut rester fidèle à soi. Et que le polyamour, moi j'ai posé des questions parce que je voulais essayer de comprendre et je respecte. Voilà, l'échangisme, ceux qui le pratiquent, je pense qu'ils ont de bonnes raisons de le faire et ils s'éclatent et c'est tant mieux. Moi, je sais que c'est pas fait pour moi. Voilà, ma femme Corinne, pareil, c'est pas fait pour elle aujourd'hui. Donc effectivement, il faut respecter ceux qui pratiquent d'autres choses et qui s'épanouissent là-dedans. Je pense que c'est un peu ça. Il y a pas de recette miracle à la relation, je crois. Il y a juste, parce que j'ai rencontré des échangistes qui se sont séparés aussi. De toute façon, qui ont rencontré quelqu'un d'autre et qui sont rentrés ensemble et ils sont partis avec d'autres personnes.
Mais vous savez, Jérôme, je crois qu'on peut aussi à un moment donné dans sa vie être échangiste, polyamoureux,
oui.
Exclusif, pour pas utiliser le terme fidèle, sinon Isabelle va encore sortir ses griffes. Et puis on change aussi au fur et à mesure de son parcours, on change aussi en fonction de son ou de sa partenaire. Enfin, là, visiblement, vous êtes avec une femme avec qui la relation a l'air d'être très forte. Voilà. Donc vous avez elle remplit peut-être pas tous vos besoins, mais suffisamment pour que vous puissiez accepter peut-être de ne pas tenter d'autres expériences.
C'est ça, tout à fait, c'est ça. Je ne vois pas qu'une belle femme. Bah, je la trouve très jolie. Je me dis, si j'avais été célibataire, bah, peut-être que j'aurais tenté le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est jolie, avec la plastique. Mais après, je pense qu'il y a aussi, bah, comme disait votre invité, il y a aussi une fidélité à l'autre. Et c'est vrai que et reconnaître en l'autre des qualités, et elle nous fait vibrer. Et c'est cette personne qui nous fait vibrer, et pas une autre. Je parle pour moi qui suis dans une relation plus exclusive. C'est elle qui me fait vibrer. Et c'est vrai que ça peut peut-être évoluer.
Mais ce que vous venez de dire est, me semble-t-il, important, parce que c'est un thème que avait abordé une auditrice il y a quelques temps, et elle avait même demandé qu'on fasse un sujet sur là-dessus. Vous dites lui être fidèle, et ça c'est aussi quelque chose d'important, parce que finalement on peut être fidèle de nature, et puis on peut devenir fidèle pour l'autre, et là à ce moment-là c'est un acte d'amour en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que malgré de temps en temps que je dis tiens, celle-là elle est mignonne, si j'avais pas été marié, ben finalement c'est vers ma femme que je reste.
C'est ça, vous faites un cadeau à votre femme de pas aller voir ailleurs en quelque sorte.
Oui, tout à fait. J'étais de nature fidèle. Et aujourd'hui, j'ai construit cet amour. Je l'ai construit. Je me suis investi dedans. J'ai évolué. Ma femme m'a fait cette relation, m'a fait évoluer. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai que effectivement, aujourd'hui, tout ce qu'elle m'a donné et tout ce qu'elle m'a permis d'évoluer. Et c'est vrai que ce qu'elle est profondément, c'est une femme qui est honnête, qui est carrée. Quand elle s'engage par la parole avec quelqu'un, deux ans après, la parole est toujours valide. Donc je reconnais ces qualités-là et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être avec elle. Mais voilà, c'est peut-être un cadeau que je lui fais, mais c'est surtout un cadeau que j'ai d'être avec elle, parce que c'est vrai que je passe de très bons moments, on fait des rituels ensemble, et c'est vrai que c'est formidable. Mais ceci étant dit, le polyamour, être avec plusieurs personnes qui nous apporte beaucoup, pourquoi pas aussi, vous voyez ce que je veux dire. Je juge pas, au contraire, j'essaie de comprendre. Mais moi, c'est pas mon truc du moment. Mais ça peut évoluer aussi. Je reste ouvert à tout ça.
Eh bien, en tout cas, bravo pour votre tolérance, hein, en tout cas, Jérôme. Votre tolérance et votre lucidité, hein, parce que je crois qu'en effet, le problème souvent, Isabelle Brouet, c'est que les gens croient qu'ils sont capables de telle ou telle chose, et puis c'est devant le fait accompli que les drames explosent, hein, que ce soit dans le libertinage, dans le couple qui s'est juré fidélité ou dans le polyamour.
Ce qui est compliqué, en fait, c'est toujours de pas être aligné avec soi-même. Donc c'est de faire des promesses qu'on sait qu'on va pas être capable de tenir.
Non, mais je pense que souvent quand les gens font les promesses, ils pensent qu'ils vont être capables de les tenir. C'est le drame, aussi. c'est parce que la pulsion arrive ou on s'est cru différent de ce qu'on est. Hein.
Je peux me permettre une
petite... Absolument, Jérôme. Permettez-vous.
Je vous remercie, c'est sympa. vous savez, j'assiste à plein de choses, des couples qui se séparent dans des conditions atroces. Moi, j'avais beaucoup de choses à travailler depuis mon enfance, donc du coup, je me suis mis avec des filles qui ne me correspondaient pas, donc qui m'ont trompé, voilà. Et puis, pourquoi pas? Que ça veut dire que si elles m'ont trompé, c'est que j'avais aussi ma part de responsabilité. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus que j'ouvre les yeux sur mes propres mécanismes, mes propres zones d'ombre. Et j'en ai, Dieu sait que j'en ai. Et du coup, ça m'a permis aussi, vous disiez, la tolérance et la lucidité. Je crois que les expériences que j'ai eues et que j'assiste autour de moi, notamment aujourd'hui à des rencontres mythiques, des amis qui ont divorcé, qui se mettent sur Mythique et qui me racontent leur déboire ou alors leur coup d'un soir et qui s'éclatent, hein, d'ailleurs, hein, y a de tout. Bah, ça m'a permis, avec toutes ces expériences, finalement, de faire ma mayonnaise, vous voyez ce que je veux dire, et de me dire je crois que le sexe occupe beaucoup de place, je crois que ça exerce beaucoup de passion, il y a beaucoup d'histoires quelquefois glauques qui a, et ça m'a permis d'être très philosophe, quoi. Et je me dis que si éventuellement faut poser les choses calmement et être moins dans l'émotion et mettre un peu plus de raison là-dedans, en fait. Et si aujourd'hui ma femme me trompait, avant, je dis ça, maintenant c'est facile, hein, froid, on est d'accord. Hein, là, je dis ça, je pense pas que ce soit le cas. Hein, mais à l'époque, elles m'ont trompé et ça a pris des proportions, ça m'a détruit. Il a fallu que j'appelle des amis. Au final, je crois que c'est pas, faut pas rentrer dans les émotions plus que ça, il faut poser les choses.
Il faut pouvoir le faire, et ça, c'est pas toujours facile quand on est encore un peu immature. Hein.
Donc. Mais voilà, c'est là où j'accède, c'est la maturité. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire un gros travail sur soi, tous autant que l'on est, et moi le premier d'ailleurs, pour justement accéder un peu plus de maturité et poser les choses pour avoir des réponses à des comportements, avoir des réponses plus adéquates, plus posées, plus sereines, pour éviter d'en faire toute une montagne. Il y a assez de choses négatives pour ne pas juger les gens qui sont dans le polyamour, qui sont dans le libertinage. Je crois qu'au final, c'est pas plus, c'est tout ça. Il faut être très tolérant. Et les gens, l'important, c'est qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux, quoi. Là où ils en sont dans leur chemin d'évolution à eux. Et leur chemin d'évolution à eux vaut autant que le nôtre, ou les gens qui sont indifférents. Je pense qu'il faut poser les choses calmement et se dire qu'on n'a pas la vérité et que chacun trouve là où il est, son plaisir et son bonheur, quoi. Je pense que c'est ça, moi.
Eh bien, vous avez bien raison, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du polyamour, pour ouvrir peut-être les esprits de certains d'entre vous. On se retrouve dans un instant, merci beaucoup, merci Jérôme. On se retrouve dans un instant, bien sûr, sur Sud Radio.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Isabelle Brouet est avec nous, on parle du polyamour, et puis on va aussi parler de l'abstinence, malheureusement, avec vous André. Bonjour André. Bonjour André, vous nous entendez ?
Oui.
Merci d'être avec nous. Donc vous voulez témoigner parce que pour l'instant, vous êtes seul, hein, c'est ça ? Oui André, vous nous entendez ? Bon, ça va être un peu compliqué me semble-t-il. Bah oui, quand on est seul, hein, on se masturbe beaucoup et on devient sourd. Bon, c'est de l'humour évidemment. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous entendre. Visiblement, je ne sais pas si c'est la communication qui est mauvaise ou pas. Revenons donc justement sur ces questions d'exclusivité, de fidélité. Vous tenez à faire bien la différence, hein, parce que la fidélité, pour vous, ça a un côté peut-être moral, c'est ça ? C'est un mot qui tout de suite fait penser à la norme morale du couple depuis des millénaires.
Pour moi, c'est vraiment la fidélité, comme on disait tout à l'heure, ça vient de fides, fidei, c'est la foi, la confiance. Donc c'est être fidèle à sa parole, à ses engagements, aux contrats qu'on passe, aux personnes qui sont importantes pour nous. Ce qui, pour moi, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle l'exclusivité, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Donc il faudrait se jurer exclusivité quand le maire prononce les paroles, parce que c'est bien le mot fidélité donc, qui est prononcé.
Ah mais moi je suis complètement capable de me marier en disant je te jure fidélité, je suis fidèle, je suis non exclusive.
Oui, j'entends bien.
Donc le mot fidélité ne me gêne pas du tout dans les vœux.
D'accord. Mais
c'est le sens qu'on y met.
J'entends bien, mais vous êtes d'accord que pour l'instant, la majorité des gens y mettent le sens de l'exclusivité.
J'entends.
Donc c'est en ça qu'il y a quand même tout un travail à faire en profondeur.
Ben oui, c'est aussi à ça que je m'emploie et c'est aussi pour ça qu'on a ce qu'on appelle les cafés polis. Les gens connaissent les cafés philo où on parle philosophie. Nous on fait des cafés polis où en fait on parle de polyamorie et il y en a à Paris mais il y en a maintenant un peu dans toute la France et dans toutes les villes. Et puis s'il n'y en a pas là où vous habitez, vous pouvez en créer un parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'être poli pour créer un café poli, c'est juste un espace de parole où les gens viennent échanger et témoigner et partager des expériences. Et donc, on en discute. Et effectivement, on ouvre le dialogue, en fait.
Mais vous savez que pour l'instant, c'est toujours la première cause de séparation. Hein, malheureusement, la non-exclusivité, pour que vous puissiez être sur le même mot que moi. Ça vient de quoi, à votre avis ?
Alors, pour le coup, je peux parler d'infidélité. Parce que pour moi, quand on trompe dans l'adultère, alors que le contrat a été l'exclusivité, il y a une infidélité. Et c'est la douleur, moi je l'ai vécu, hein, la douleur d'avoir été trompée, d'avoir été trahie, de plus pouvoir faire confiance à l'autre en se disant ben, « Ok, je veux bien, je suis toujours amoureux ou amoureuse, mais qu'est-ce qui va se passer s'il a été capable ou si elle a été capable de faire ça ? Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas ou elle ne va pas recommencer ?» C'est très difficile de passer par-dessus. Je vous disais tout à l'heure, il y a un livre d'Esther Perel qui vient de sortir et d'être publié en français qui s'appelle « Je t'aime, je te trompe ».
C'est une formidable sexothérapeute d'ailleurs.
C'est une sexothérapeute
canadienne, je crois.
Non, elle est belge et américaine. Donc elle vit aux États-Unis mais elle est belge d'origine. Et le livre est formidable. Je l'ai lu l'année dernière et en anglais. Il est vraiment remarquable. Et il parle d'infidélité et sans jugement. Parce qu'évidemment, l'idée n'est pas de juger les gens. Les chiffres sont très différents. On parle de 30 à 80% de gens qui se trompent au bout de 5 ans dans une relation. Parce qu'évidemment, selon ce qu'on met derrière tromper, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais c'est important. Et donc l'idée, c'est moi, en tout cas ma manière à moi de l'aborder, c'est d'être en lucidité.
par rapport à moi-même et par rapport à la réalité humaine.
Je comprends bien, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, Isabelle Brouet ? Il faudrait aider les gens à comprendre que ben, c'est pas si grave que ça, si quelqu'un éventuellement peut avoir du désir pour quelqu'un d'autre, parce que rien que ça, déjà, pour certaines personnes, c'est trompé. Hein.
Bien sûr, mais parce qu'en fait, on nous raconte, on nous fait croire dans les contes, dans les livres, dans les films, que si on a du désir ou de l'amour pour quelqu'un d'autre, alors on n'aime plus la personne avec qui on est en relation. On nous fait croire que c'est que alors notre couple ne va pas bien. Donc on est en panique absolue. Parce qu'on croit
Vous pensez pas que c'est tout simplement parce que notre narcissisme, notre estime de nous-mêmes, c'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder demain avec Hélène Vecchiali, est souvent un peu fiable, un peu fragile, et donc dès que l'autre s'éloigne un petit peu, ça nous met complètement en péril.
Oui, c'est aussi des questions d'attachement, et on peut travailler sur son attachement sécure ou insécure aussi, bien sûr. La polyamorie nous oblige d'une certaine manière à travailler sur qui on est et sur nos insécurités d'enfance. Parce que, évidemment, ça fait remonter à la surface des émotions qui sont parfois très difficiles à gérer.
Oui, parce que d'une certaine manière, si l'autre va un petit peu ailleurs, déjà, il nous abandonne, en quelque sorte, c'est ça ?
C'est ce qu'on peut projeter ou ce qu'on peut croire, et ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'en réalité, l'autre, il revient aussi. Et s'il revient, c'est qu'il en a envie. Et on peut travailler sur le côté positif du fait que, certes, il est allé voir ailleurs, mais il revient, ou elle revient. C'est ce que disait aussi Jérôme tout à l'heure. J'ai trouvé assez émouvant son ouverture à l'autre, où quand il était capable de dire, ben voilà, mes premières femmes m'ont trompé et je l'ai mal vécu et j'ai tout foutu en l'air parce que j'ai mal réagi et il faut contrôler ses émotions. Et j'avais envie de lui dire, mais les émotions, elles sont là. Les émotions, elles sont légitimes. C'est pas ses émotions qu'il faut contrôler, c'est son comportement. Et c'est qu'est-ce qu'on fait des émotions. Et du coup, si on en parle, à partir du moment où on les accepte et on les reconnaît, on peut les accueillir et là, on peut commencer
c'est-à-dire
à travailler.
C'est-à-dire que ce qui se passe souvent, pour les entendre, hein, Isabelle Brouet, c'est que les émotions sont tellement fortes, tellement douloureuses, que le seul moyen qu'on a, c'est de jeter l'autre pour quelque part se venger d'une manière qui n'est pas forcément la bonne, parce que de toute façon, ça continue à faire mal et parfois, on perd même un être très cher et on s'en mord les doigts quelques années plus tard. Mais c'est tellement, tellement douloureux sur le moment qu'il n'y a pas moyen de raisonner, en quelque sorte.
Hein. C'est ça. Et c'est tout notre travail de dire, en fait, c'est humain d'avoir d'autres désirs. C'est aussi l'histoire de l'humanité, l'histoire des êtres humains, des femmes, des hommes, et on est comme ça. Et si c'est si compliqué, manifestement, de rester exclusif, alors que toute la société fait que, quand même, on est censé être en couple exclusif, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir dans la nature humaine qui fait qu'il y a des gens pour qui ça convient parfaitement d'être exclusif, et puis d'autres pas. Et que c'est pas très grave, et qu'il y a plein de gens qui ont besoin de vivre d'autres choses et d'autres désirs et d'autres explorations. Et ce que dit Françoise Saint-Père dans mon film, c'est qu'elle dit on va voir ailleurs souvent, pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas à la maison, mais parce qu'il y a d'autres choses à regarder ailleurs, il y a d'autres choses à découvrir, c'est une histoire de découverte. Et il y a vraiment beaucoup de ça aussi, de rester ouvert, en fait.
Isabelle Brouet, restez avec nous. On va tester un rabbit dans quelques instants.
Chouette.
Et puis, oui, chouette, absolument. Enfin, j'espère. C'est Yvette qui l'a testé pour nous. Et puis, vous pouvez continuer à réagir, bien sûr, 0826-300-300. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous retrouvons donc Yvette qui a reçu pour nous ce rabbit. Bonjour Yvette.
Bonjour Brigitte, je suis très, très contente de vous avoir en ligne.
Merci.
Alors, je suis ravie.
Isabelle oui. Brouet et Yvette, vous allez
bonjour.
Jouer sur l'info intox du jour et puis après on parlera bien sûr de ce rabbit.
Oui.
D'abord, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un menuisier vosgien qui fabriquait des jouets pour enfants, des jouets en bois. Donc, vous savez que ça existe encore. Hein. Il y a des artisans qui font de très beaux jouets en bois pour enfants. Et donc, il a voulu se lancer dans la fabrication de sextoys en bois des Vosges. Évidemment, bien poli, hein, si je puis dire, pour pas qu'il y ait des charbons.
Il vaut mieux,
oui, voilà. Donc, c'est dans un bois assez dur, semble-t-il. Et il a créé plusieurs modèles qui s'exportent, notamment beaucoup en Chine. Voilà. Il paraît que les Chinoises aiment les jouets.
Le bois des Vosges.
Le bois des Vosges, voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Yvette ?
Alors, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que c'est vrai.
Et vous, Isabelle ?
Moi aussi, ça me paraît tout à fait crédible.
Oui, c'est vrai. Merci Brigitte, hein, vous racontez tellement bien.
Oui.
Oui, c'est vrai, et ça s'exporte énormément en Australie et au Japon.
Ah bon, ben
et
oui,
ça marche très
pas
bien.
Loin, hein, parce que j'ai inventé la Chine, mais...
C'est vrai, et son papa, en fait, fabriquait des jouets pour enfants, lui aussi, et il a décidé de se mettre au sextoy en bois, sans écharde garantie.
Bah, il vaut mieux.
Oui, ça, c'est clair. Oui.
Et donc, il a un nom, ce monsieur, on peut le trouver sur Internet ?
Sur Internet, oui, j'ai pas son nom. Si, Thierry Germain, alias Bob Toys.
Bon, et ben voilà.
Pas que ce soit au Japon.
Il va être surpris aujourd'hui.
Il va avoir plein d'appels, plein de commandes. En plus, c'est joli, ils sont vraiment jolis. Hein.
Oui, ça peut être c'est un peu. Ah oui, c'est pas vilain.
Voilà.
C'est bien lisse.
On dirait un sapin en chocolat.
C'est ça.
Vous êtes gourmande, Yvette. Hein.
Oui.
Bon, allez, on revient au nôtre, hein, qui est pas du tout en bois, qui est en silicone. Alors, c'est un Clara Morgan Rabbit, hein, Friend Rabbit, donc mon ami le lapin. Donc, c'est la nouvelle version des fameux rabbits que vous connaissez sans doute, Yvette, Isabelle Brouet, hein, bien sûr. Alors, il est bien plus moderne, bien plus puissant. Bah, donc, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas les rabbits, hein, donc c'est un pénis avec une petite languette avec deux oreilles de lapin, donc on rentre le pénis dans le vagin et le petit lapin
stimule le clitoris.
Voilà.
Tout à fait. Qui est très doux d'ailleurs.
Il est très doux.
Très doux. Très doux au toucher.
Oui, c'est une belle matière, c'est vrai. Tout rose.
C'est une belle matière. Mais au moment de l'utiliser, bon, à mon âge, je dirais, faut vraiment voir. Il manque quelque chose. Il manque un petit peu de. Excusez-moi, de. Le produit que l'on met.
De lubrifiant.
Voilà, il manque de lubrifiant.
Ah, vous n'aviez pas absolument. Ça sous la main. Il faut qu'on vous envoie en plus le lubrifiant, Yvette.
Moi, je pensais qu'on allait le mettre avec.
Non, les jouets ne sont pas vendus avec le lubrifiant. Hein.
D'accord, oui. Je pensais que les jouets étaient vendus avec le lubrifiant.
Non, en général, ce n'est pas vendu avec le lubrifiant. Et c'est vrai, vous avez raison, il vaut toujours mieux utiliser un lubrifiant quand on utilise un jouet. Même si c'est un jouet uniquement pour le clitoris, c'est toujours mieux parce que bon, on n'est pas excité quand on sort le rabbit de sa boîte. Hein.
Non. Il est agréable à tenir. Je sais que je l'ai montré à plusieurs copines. Elles l'ont toutes trouvé super beau.
Ah,
très
généreuse. Vous prêtez vos jouets à vos copines, Yvette ?
Alors je l'ai montré.
Ah, vous l'avez montré.
Je l'ai pas prêté.
Non, vous l'avez pas prêté.
Après, on m'a demandé si je pouvais le prêter. Bon, après un bon petit nettoyage.
Vous le louez, Yvette, vous allez faire fortune.
Bah oui, tiens, c'est encore une nouvelle idée, ça. C'est... Oui, tout à fait.
En plus, je sais pas, 30 euros la soirée, c'est pas très cher. Et quelques copines.
Moi, je trouve ça cher.
Oui, puis en plus, en recherche d'emploi donc, et d'idées. Mais bon, donc le jouet en lui-même, il est sympathique. Hein. Je l'ai trouvé très agréable. Le petit souci, c'est que je suis plutôt une femme clitoridienne. Donc, alors, le petit bonhomme, les petites oreilles, elles sont superbes. Toutes ces vibrations, c'est au niveau du clitoris, est superbe. Mais c'est vrai que c'est un objet qu'il faut réellement entrer à l'intérieur pour utiliser les deux en même temps.
C'est le principe du rabbit, hein, de toute façon. Cela étant dit, Yvette, je ne le dis pas spécialement forcément pour vous, hein, mais c'est l'avantage du rabbit, pour des femmes qui sont plutôt clitoridiennes, c'est que parfois, ça peut réveiller un peu le vagin.
Oui, je suis d'accord.
C'est le clitoris de l'intérieur.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, c'est la petite tête qui m'a fait énormément de plaisir, qui m'a donné beaucoup de plaisir. La petite tête avec ses oreilles.
Oui, la petite excroissance. L'intensité est bonne, hein, en tout cas.
Ah oui, elle est très bonne. Et puis, vous avez vraiment plusieurs systèmes de... Oui, c'est vraiment très sympathique. C'est vrai qu'après, le pénis en lui-même, c'est pas quelque chose qui m'a plu le plus.
D'accord.
Voilà. Brigitte est en train de l'essayer sur son doigt. On a sursauté, on a entendu une petite vibration.
Je vais quand même pas l'essayer sur mon clitoris en pleine émission, Isabelle Brouet, quand même. Enfin, un peu de tenue.
Donc moi, je l'ai essayé. Hein. C'est vrai que les vibrations, quand vous mettez le premier au niveau du pénis, c'est assez sympathique, c'est va et vient. Mais ça m'a pas procuré grand-chose, moi.
Bon.
Je ne sais pas pourquoi.
Mais attendez.
Je ne sais pas pourquoi.
C'est vous qui l'avez testé. Hein.
Ah oui. Je suis vraiment restée sur la petite tête. Hein.
Oui, j'ai bien compris. Et puis en plus, il y a je ne sais plus combien de modèles de vibrations. J'en suis en train de les essayer.
Il y en a plein.
C'est incroyable, 21.
Oui.
Alors, moi, je peux vous dire que je l'ai sous les yeux et que ça donne très envie d'essayer quand même.
Oui, ça donne envie d'essayer. C'est une belle couleur, hein, vous avez vu, ce rose.
Oui, ah, moi, enfin, c'est peut-être pas la couleur qu'on apprécie le plus, hein, Yvette.
Il est sorti avec mon écharpe.
Mais c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai eu un superbe sourire.
Il est bien fabriqué et il est certainement d'une grande efficacité. Après, on en fait ce qu'on en veut, hein, Yvette.
Tout à fait. On peut vraiment l'utiliser là où on veut.
Bon,
c'est sympathique.
N'hésitez pas à acheter un lubrifiant. Hein,
ah oui.
Ça sera mieux pour la prochaine utilisation, Yvette.
Tout à fait.
Bon, et quelle note vous lui donnez alors en finale?
Eh bien, écoutez, je lui mets un petit 8.
Un petit 8,
c'est pas mal, quand même.
Un bon 8, grâce à la petite tête.
On a bien compris.
Voilà. Je dirais à toutes ces dames, allez-y.
Bon, merci Yvette en tout cas de l'avoir testé pour nous. Alors ce French Rabbit, vous pouvez le retrouver bien sûr, c'est un jouet marque d'Orsel, Clara Morgan.
Voilà.
Merci Yvette.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et puis on vous enverra un petit cadeau puisque vous avez gagné. Hein.
Oh, bah, c'est très gentil, merci.
Annie est avec nous, bonjour Annie.
Bonjour Brigitte. Voilà, j'appelais pour parce que j'avais un petit témoignage par rapport à une expérience que j'ai eue avec un couple polyamoureux.
Ah, intéressant. Allez-y, oui.
Voilà, donc en fait, suite à un stage, il y avait donc plusieurs participants, dont un couple. Et donc après le stage, elle en particulier a été très sympathique avec moi, très ouverte. On a pris un café ensemble après le stage. Et puis bon, en fait, c'est vrai qu'il y avait un certain feeling. On s'est un peu raconté nos vies.
C'était un stage de quoi ?
De Tao.
D'accord, oui.
Voilà.
Oui, donc on est dans une dimension spirituelle déjà.
Oui. Oui, enfin, il y avait des choses à dire par rapport à ça, mais bon, c'est un autre sujet.
D'accord. Et donc, j'ai compris, mais bon.
et donc, on a pris un verre ensemble, ça s'est très bien passé. Et puis, donc, elle m'a parlé de différentes choses qui l'avaient intéressée dans sa vie, dans le polyamour. Bon, et moi, assez naïvement, je l'ai écouté, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, après, un peu plus tard, elle m'a invitée chez elle, donc avec son mari. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, en gros, elle cherchait quelqu'un pour son mari. Parce qu'elle-même était en relation avec un monsieur, dont j'ai su au dernier moment qu'il serait là, cette fameuse soirée. Et donc, je me suis sentie, j'avoue, assez mal à l'aise, parce que vite, j'ai vu tout un jeu un peu de séduction d'elle par rapport à ce monsieur, et devant son mari. Et c'est vrai que ce que j'ai ressenti vraiment, c'était pas de l'honnêteté, c'est-à-dire que son mari, je ne l'ai pas senti épanoui dans ce contexte, disons, et j'ai senti qu'il subissait plutôt. Mmh. Et en fait, c'était un monsieur qui avait une bonne situation, qui était bien aussi, sous d'autres rapports. Et donc, moi, ce que j'ai ressenti par rapport à cette expérience, parce que je me suis quand même désistée au moment où ça devenait plus précis, et ce que j'ai ressenti, c'était que...
Elle voulait un plan à quatre, quoi.
C'était
du libertinage.
Je pense que... Enfin, c'est l'interprétation que j'en fais, en tout
Allez-y,
cas.
Allez-y, je vous en prie.
C'était que, en fait, pour un peu être bien avec sa culpabilité, il fallait qu'elle trouve quelqu'un pour son mari, parce que lui, évidemment, il était seul. Elle était avec un autre monsieur, et lui, il n'avait pas de polyamour, en gros, de polyamoureuse.
Mais elle avait l'intention, d'après vous, que ça se passe ce soir-là, avec son mari et elle avec son amant.
Voilà, moi ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'elle avait envie de trouver quelqu'un pour son mari. Et lui, c'est vrai qu'il était assez discret, il se livrait pas tellement, et elle, c'était un peu le contraire. Et c'est une expérience, je n'ai pas du tout ni consommé, ni été plus loin. Et je me suis dit que tout ce qu'elle m'avait expliqué avant, quand on s'était vu et tout, je me dis, mais est-ce que toutes ces théories de polyamour... Après, je me suis documentée, j'ai un peu été voir chez Françoise de Saint-Pierre.
Saint-Père.
Et, Saint-Pierre, Saint-Père, et j'ai vu aussi qu'elle, c'était à partir d'une trahison qu'elle était devenue polyamoureuse. Et donc, je me dis, est-ce que c'est pas une difficulté à gérer, ben, les problèmes qu'on peut rencontrer en couple, les peurs, les, en fait, tout ce qu'on a pu dire avant, et que c'était pas un chemin plus facile, entre guillemets, de se dire, bon, ben voilà, je suis polyamoureuse, donc je me sens moins coupable, en plus j'ai moins de frustration, tout va bien. Enfin, je trouve que c'est un chemin, pour moi, ça m'a semblé un chemin de facilité.
Alors, de facilité,
pas tout à fait honnête. Quoi,
alors, facilité, Annie, je sais pas, mais là où vous avez raison, c'est que c'est un chemin qui permet éventuellement de se sortir de la culpabilité, du sentiment de trahison, de toutes ces choses que doivent gérer les couples entre
Voilà, les ordinaires.
Moi, ce que j'entends dans ce que vous racontez, Annie, et ce qui m'a frappée, c'est que vous avez eu la sensation qu'il n'y avait pas d'honnêteté. Et effectivement, dans ce que vous racontez, moi, ce que j'entends, c'est que c'est comme si vous aviez été piégée dans une situation où on vous a amené quelque part où vous n'aviez pas compris ce qui allait se passer.
Bah, j'étais peut-être un peu naïve, hein. C'était donc il y a peut-être une dizaine d'années, je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas su voir au bon moment, mais en tout cas.
Mais quand elle vous invite donc à venir dîner chez son mari et chez elle, elle vous dit quoi? Elle vous dit on va passer une bonne soirée?
Elle m'a pas dit les choses vraiment. Elle m'a dit, bon, donc, qu'elle m'invitait chez elle, et puis je crois que c'est un peu au dernier moment qu'elle m'a dit qu'il y aurait donc cette troisième personne.
D'accord, oui. Oui, donc elle vous met un peu devant le fait accompli. Oui.
Donc effectivement, oui, la polyamorie, alors moi je dis polyamorie et pas polyamour, hein, pour vraiment distinguer du fait que c'est avoir des relations pas nécessairement amoureuses. La polyamorie, c'est avant tout une manière de vivre les relations éthiques et consensuelles. C'est-à-dire que toutes les personnes concernées sont censées être au courant et d'accord des situations. Ce qui n'était pas votre cas, là.
Oui, j'entends bien, mais je me dis qu'à l'intérieur de gens qui sont voilà, dans ce mouvement, ben, je veux dire, moi, dans ma vie ordinaire, avec mon compagnon et tout, j'ai l'habitude de parler, de dire, d'être honnête et tout, donc de suivre un peu les principes de que vous évoquiez, et c'est pas pour ça que je dois m'inscrire aux rencontres polyamoureuses. Enfin, je veux dire, j'ai déjà pas mal de choses à faire à l'intérieur de la vie à deux. C'est ce que je comprends pas. On est tous confrontés à plein de choses dans la vie à deux, bah, qu'il faut régler. Et pourquoi avoir besoin encore de rajouter un élément qui à mon avis, n'est pas simple.
Oui, quelque part, vous êtes en train de dire à quoi ça sert de se déclarer polyamoureux. Oui. C'est une sorte de transparence inutile, quoi.
Voilà, au lieu de rester à deux et de se dire, bah, écoute, on est honnête l'un envers l'autre, on se dit les choses quand on a besoin de les dire, on essaie de les régler quand ça devient compliqué, et j'avoue que bon, bah, voilà, la vie à deux, c'est un chemin aussi. Mais voilà, moi, j'aurais pas idée de je sais pas, j'avoue que
mais
je
Annie,
comprends
Annie,
pas l'utilité.
Moi, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais prenons l'exemple, demain, vous avez envie d'une relation amoureuse ou sexuelle avec un autre homme. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dites à votre compagnon, vous ne le dites pas, et puis s'il l'apprend, vous en parlez. Comment vous procéderiez?
Ben, je crois que justement, quand on parle d'un chemin un peu de fidélité au sens de l'honnêteté, pas au sens de la fidélité conjugale, mais fidélité parce que honnêteté ou voilà,
respect de l'autre,
par rapport à soi, par rapport à l'autre, ben je fais en sorte peut-être de pas trop m'égarer dans des chemins qui peuvent m'amener à une tentation parce que j'ai déjà assez à faire avec mon voilà, l'homme avec qui je suis.
D'accord, donc vous essayez de rester dans une exclusivité sexuelle.
Oui, tout à fait.
Vous
essayez, alors, pas par principe moral et tout ce qu'on peut dire, parce que c'est bon, bah
c'est plus
ça
simple.
Ça me semble logique sur un chemin de voilà un peu de d'authenticité par rapport à sa vie, et aussi parce qu'on est structuré comme ça. Parce que tout à l'heure on parlait de on nous dit, mais c'est pas qu'on nous dit, c'est qu'on est né dans une société et qu'on est modelé par cette société et que on peut pas l'effacer comme ça. Donc au fond de nous on a tout ça, qu'on le veuille ou non, quoi.
Mmh. Ça,
complètement.
C'est
je suis complètement d'accord avec vous. On est tous et toutes dans cette société. Et c'est là oui. où il y a une partie d'entre nous qui disent, ben, sauf que le modèle qu'on m'impose ou qu'on me dit qui est le seul possible, en fait, à moi, il ne convient pas. Et donc, comment je fais si moi, ça ne me convient pas pour en sortir? Et moi, par exemple, quand j'avais 17 ans, j'avais ce sentiment que je pouvais être attirée par plusieurs personnes, avoir plusieurs relations en même temps, et le mensonge ne me convient pas. Et il a fallu que j'attende mes 40 ans pour découvrir le mot polyamorie, le concept et le fait que c'était une philosophie de vie. Mais j'ai vécu pendant 23 ans en n'étant pas bien, en n'étant pas moi-même.
Oui. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que dans votre expérience comme celle de Françoise Saint-Père, c'est que c'est à partir d'un échec de la vie à deux qu'on va dans ce chemin. Alors je me dis, moi j'aime bien essayer de régler les choses qui me posent problème dans ma vie, hein. Bon, tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais je veux dire que voilà, c'est toujours à partir du fait que bah, la relation à deux n'est pas satisfaisante, mais pour la rendre satisfaisante, il faut y travailler aussi. Enfin voilà, c'est mon...
Alors, on va,
je
ne
juge
on,
pas,
on,
c'est mon opinion.
Non, mais c'est intéressant votre opinion et le débat qu'on peut avoir avec vous, Annie et Isabelle Brouet est intéressant. Puis surtout, on va poser la question à Isabelle, est-ce que l'amie dont vous avez parlé, Annie, est vraiment polyamoureuse? Peut-être pas, hein, justement. On se retrouve dans un instant.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Alors, Isabelle Brouet, vous êtes avec nous, vous êtes la réalisatrice de ce film Lutine qui passe tous les vendredis dans une salle à Paris dans le 5e, bientôt en province, qui parle donc en long, en large et en travers, mais c'est une comédie bien sûr, du polyamour. Et nous avons Annie qui est avec nous. Annie, vous êtes en couple, visiblement dans un couple qui fonctionne bien. Je vous conseille d'ailleurs, Annie, et je conseille à tous ceux qui ont été intéressés par ce débat aujourd'hui, le livre de Gérard Leleu sur le couple et la fidélité, parce que c'est un très joli livre. Alors c'est un Gérard Leleu, il est plutôt de votre côté, Annie, hein. Il est plutôt pour vanter les mérites de la fidélité, parce que justement ça renforce le lien, toute énergie sexuelle qui va ailleurs peut nuire au lien. Enfin, c'est un livre assez court, mais c'est un joli livre de Gérard Leleu. Et puis moi, de toute façon, j'aime tout ce qu'écrit Gérard Leleu. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse, Annie. Donc vous interpelliez Isabelle Brouet en disant que finalement on va vers le polyamour après des échecs. Hein. C'était bien ça votre questionnement.
Oui, oui, en tout cas, oui, ça prend un peu sa source par rapport à un échec, effectivement.
Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai de mon histoire. C'est que j'avais le sentiment d'avoir cette ouverture vers l'autre avant même de me mettre réellement en couple. Et j'en ai parlé avec les personnes avec qui j'étais en couple quand je me suis mise en couple à 17 ans et puis ensuite à 27, en leur disant j'ai le sentiment que moi, ça ne me convient pas d'être exclusive. Et l'un et l'autre m'ont dit, ben, si tu veux rester avec moi, c'est pas possible. Et du coup, je me suis frustrée moi-même. Je n'étais pas moi-même. Dans un cas, j'ai trompé, dans l'autre pas, mais je n'étais plus moi-même. Donc, c'était pas un échec de la relation à deux, c'est que j'étais juste pas en accord avec qui je suis moi, parce que je suis une nature curieuse et que j'ai envie de rencontrer d'autres gens. Je ne voyais pas comment j'allais vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans avec des œillères, en fait.
Oui, mais en même temps, vous parliez de vivre le présent. Donc, le présent, on n'a pas à penser à 60 ans, parce que dans 60 ans, on ne sait pas ce qu'on sera. Et, enfin, je veux dire, dans ce cas, on est tous dans le même cas. On ne peut pas présager deux. Déjà, on peut vivre le présent dans sa vie à deux, déjà. Et puis, si on est très amoureux de quelqu'un, ben... Enfin,
oui, mais j'entends bien ce que vous dites, Annie, et je crois que c'est important de le souligner. C'est-à-dire que Annie part du principe qu'on est bien avec quelqu'un et on met notre énergie pour être bien avec cette personne-là et donc pour ne pas aller se disperser ailleurs. Hein. Vous, Isabelle, vous êtes d'une nature peut-être dispersée et ça vous paraît de toute façon impossible, même dans l'instant présent, de mettre toute votre énergie avec la même personne. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Enfin, j'essaye de comprendre vos différences. Hein.
En vrai, j'ai l'impression qu'on dit la même chose à Annie et moi. Je dis juste, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un couple et investir dans une relation
profonde, durable, vraiment sur la relation durable, au sens positif du terme, et par ailleurs, rester ouvert à d'autres expériences, parce que la vie est multiple.
C'est le contrat, contrat de départ qui n'est pas le même. Annie, vous partez sur un contrat où, a priori, on va tout faire pour se rester exclusif l'un à l'autre. Et vous, Isabelle, vous partez avec un contrat en disant, bon, on est bien ensemble, mais je ne te promets pas l'exclusivité, c'est ça ?
Moi, je pars d'un constat qui dit, si jamais...
Juste une petite remarque. Si par exemple la personne avec qui vous êtes en polyamour, j'ai compris que vous étiez quelqu'un avec qui vous étiez avec quelqu'un auquel vous teniez. Bon, si cette personne elle tombe amoureuse ou elle met une relation forte avec quelqu'un d'autre, ben vous êtes au point de départ. C'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez en couple et il faut aussi soigner ses émotions et tout comme on le fait dans un couple.
Bien sûr.
Je vois pas ce que ça apporte de plus.
Ça, si la personne avec qui je suis a envie de vivre une autre relation, et comme
non,
moi...
Envie, s'investit fortement dans une autre relation, tombe vraiment amoureux et dit bah, je veux faire une vie avec une autre femme. Vous, qu'est-ce que vous faites de plus que quelqu'un qui n'est pas polyamoureux?
S'il a envie de me quitter, je fais rien d'autre de plus. C'est comme dans un couple exclusif ou mono, on se sépare. Si son désir à lui, c'est de me quitter, on se quitte. Bah, mes émotions seront les mêmes de tristesse et de chagrin, de perte d'une relation à laquelle je tiens. Mais ça, la polyamorie ne protège pas des chagrins d'amour. Pas plus que la monogamie, d'ailleurs.
Si je vous comprends bien, Annie, c'est que vous êtes en train de dire quel intérêt de se prétendre polyamoureux, quoi. Puisque de toute façon, ça protège pas du fait qu'on puisse être quitté parce que l'autre va tomber amoureux de quelqu'un d'autre. En gros, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui, tout à fait.
Je suis assez d'accord avec vous, Annie, moi.
Oui, mais là, vous êtes en train de parler du fait que peut-être la personne va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et avoir envie de construire une autre vie. Bien sûr, ça arrive. Mais dans l'adultère, très souvent, c'est des gens qui trompent leur conjoint, leur partenaire, et qui continuent à avoir envie de vivre avec leur partenaire. Et qui continuent à aimer leur partenaire de vie, avec souvent lesquels ils ont des enfants, une vie qui leur convienne. Et puis, tout d'un coup, si l'adultère est découvert, tout d'un coup, ça fait tout exploser. Alors que peut-être, s'ils en avaient parlé avant, peut-être, ça ne ferait pas tout exploser. C'est dans ce sens-là, plus.
D'accord, mais ça fait tout exploser parce que l'autre aussi a des émotions et qu'il faut bien qu'il les exprime et qu'il faut bien faire avec les émotions de l'autre. Ça ne nous met pas à l'abri de ça, je veux dire, avec de traiter ses émotions et les émotions de l'autre.
Et plus il y a de personnes, et plus il y a d'émotions, et plus c'est compliqué.
Oui.
Bon, en tout cas, en tout cas, Annie, vous n'êtes pas convaincue, hein, ça.
Pas du tout, non.
Non, mais je crois qu'au contraire, on dit la même chose toutes les deux, juste avec deux points de vue différents. Mais j'ai la même envie d'investir.
Oui, mais ce qui est intéressant dans ce dialogue entre vous, Isabelle et Annie, c'est que finalement, vous n'arriverez pas à convaincre grand monde, Isabelle, que ça sert à quelque chose de se dire qu'on n'est pas exclusif, quoi, finalement. Si ce n'est de mettre le doute et d'éviter un engagement peut-être plus profond, enfin, il me semble.
Je cherche à convaincre personne.
Non, je sais bien. Mais c'est comme ça que Annie ressent les choses, il me semble, hein, Annie.
Oui, tout à fait. Je n'arrive pas à voir
l'intérêt d'être polyamoureux.
Si vous êtes heureuse avec quelqu'un en étant exclusive toute votre vie, que la personne aussi...
C'est pas ce qu'a dit Annie. Hein. Annie,
je projette. Si un couple est ensemble, à deux, heureux, que ça leur convient à l'un et à l'autre, ben c'est chouette, c'est super, pour l'un comme pour l'autre. La difficulté, c'est à un moment, s'il y en a un des deux qui a envie de vivre autre chose, comment on le gère?
Mais c'est ce que dit Annie, on va le gérer au moment où ça arrive. Pourquoi le projeter dès le départ? Vous voyez, c'est un peu là où vous êtes sur deux points de vue totalement différents et que je respecte l'un et l'autre. Mais je pense que Annie est consciente que la fidélité exclusive à tout prix, c'est complexe, c'est compliqué, c'est pas sûr que ça marche.
Complètement, ça c'est sûr.
Mais c'est quand ça arrive qu'on gère les émotions, tandis que vous partez du principe que dès le début, il faut les gérer, quoi.
Non, pas du tout. On part du principe que si jamais ça, quelque chose arrive, on se dit ce jour-là, comment tu aimerais qu'on en parle, qu'est-ce que tu aimerais, et qu'en tout cas, le sujet, c'est que c'est pas tabou. Et donc, le jour où il y en a un qui a envie d'aller voir ailleurs, c'est pas vécu comme une remise en cause profonde de la relation. D'accord. Et donc, la personne qui se retrouve avec son partenaire qui a envie d'aller voir ailleurs, se dit pas « Oh là là, mon Dieu, c'est ma vie qui s'arrête ». On se dit « Bon, on se pose et on en parle ».
Mais dans ce cas, c'est juste la gestion de la communication qu'il y a à faire. Et ça, on l'a fait. Enfin, quand on veut s'améliorer dans un couple, on essaie de le faire, quoi.
Évidemment. Hein, évidemment. Et c'est pour ça que je dis qu'on dit la même chose toutes les deux. Je vous parlais des livres de John Gottman sur la communication et sur les relations positives et sur le fait que c'est important de parler, de dialoguer. Évidemment.
Ça, je suis tout à fait d'accord, mais bon, voilà.
Bon, finalement, c'est ce que je dis, on est d'accord. Annie, c'était avec Isabelle Brouet qu'il fallait prendre un verre et pas avec l'autre là qui n'était absolument pas polyamoureuse, mais qui était plutôt libertine, me semble-t-il.
Oui, j'ai des gros doutes, sur ça, son authenticité dans ce domaine. Bon,
Mais son éthique et son honnêteté. Oui, moi, c'est pas de ça. Ça me donne pas très envie non plus de la rencontrer.
Mais en tout cas, merci de votre témoignage, Annie, et de cet échange. Je crois qu'il était assez clair pour tous ceux qui nous ont écoutés, et c'était assez passionnant. Pour une fois, j'avais juste à écouter. C'était formidable. Merci Annie. Merci à vous.
Merci beaucoup pour l'émission aussi. Merci.
Je vous en prie. Merci Isabelle Brouet. Moi, je vous souhaite tout le succès mérité, parce que moi, je l'ai vu le film. Il est intéressant. Si vous vous posez des questions sur le polyamour, allez voir Lutine. Pour l'instant, c'est à Paris, mais ça va circuler en province.
Bientôt à Agen, à Besse, à Toulouse.
À Besse, bien sûr. Voilà. Bon, voilà. Alors, on va parler d'un sujet un peu dans la même lignée, si je puis dire, demain, puisqu'on va voir comment on se construit dans son estime de soi, dans sa confiance en soi, dans son narcissisme, pour justement mieux s'aimer et peut-être accepter plus facilement le fait que l'autre puisse s'éloigner un peu. Parce que c'est vrai que c'est sans doute à cause de ce manque d'estime de soi, Isabelle Brouet, qu'on a le plus de mal à accepter justement que l'autre aille un petit peu ailleurs.
Moi, je parle beaucoup de l'attachement, de la théorie de l'attachement de John Bowlby. Ça m'a beaucoup aidée. Il y a un livre que je trouve qui est formidable, qui s'appelle « Serre-moi fort » en français. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, en tout cas, voilà, ça s'appelle « Serre-moi fort » et ça parle de l'attachement dans le couple. Et c'est formidable, vraiment, je vous le conseille.
Merci en tout cas Isabelle Brouet d'être venue nous parler du polyamour. Tout de suite, bien sûr, vous allez retrouver Liane Folly et ses invités. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à demain avec donc Hélène Vecchiali qui sera avec nous pour évoquer tous ces sujets.